VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour avec Camille Gros-Didier. Mais avant, un bulletin d'information. Au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa a été relâché. Le président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits de l'homme avait été arrêté hier. Toutefois, la société civile et l'opposition maintiennent la pression. Les manifestations contre le troisième mandat ont donc continué. Fabien Sagboitois est l'un des avocats de Pierre Claver Mbonimpa.
Monsieur Pierre Claver a été arrêté hier dans la maison de la presse lorsque les policiers allaient fermer cette maison. Il y avait quatre radios qui émettaient en synergie. Il était parti comme les autres pour voir la situation et éventuellement pour faire la médiation parce qu'il est habitué à cela. Et bien sûr, les policiers n'ont pas été contents de sa présence parce qu'on lui reprochait d'être à la base de ces manifestations qu'ils appellent évidemment insurrection. Et on l'a arrêté, on l'a conduit sans mandat, bien sûr, sans mandat d'arrêt, et on l'a conduit dans les bureaux de la documentation qu'on appelait dans l'OTAN les bureaux de sûreté. Et il a passé la nuit. Aujourd'hui, à 15h, il a été libéré.
Par contre, un mandat d'arrêt persiste contre Vital Chimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, qui est entré dans la clandestinité. Les manifestations ont continué avec des affrontements sporadiques dans certains quartiers de Bujumbura. Accusé d'inciter au soulèvement, la très populaire radio publique africaine a été coupée. Deux autres radios privées, Bonesha et Isan Ganiro, ne peuvent plus émettre en dehors de Bujumbura. Nkurunziza a bénéficié du soutien sans faille de son ministre de l'Intérieur, Edouard Douimana, et des jeunes de son parti, les Imbero Nerakure, que l'ONU qualifie de milices. Ben Ki-moon a envoyé Saïd Djinnit, son émissaire dans la région des Grands Lacs, pour faire des consultations afin de ramener les esprits. Le président togolais Faure Gnassingbé maintient toujours une large avance alors que se poursuit le dépouillement du scrutin de samedi. Le point avec Eddy Sango.
D'après la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé engrange 69% alors que son principal rival, l'opposant Jean-Pierre Fabre, ne compte que plus de 17%. Le président sortant accentue son avance sur son principal rival, Jean-Pierre Fabre, qui conteste déjà ses résultats partiels. Il ne concerne que 1925 bureaux de vote sur près de 9000 dans le pays. Les résultats de Lomé, la capitale, favorable à l'opposition, ne sont pas encore publiés. Comme le pays a souvent connu des violences après des élections, le président ghanéen John Dramani Mahama et l'ivoirien Alassane Ouattara sont arrivés à Lomé pour faire les bons offices.
Au Mali, conséquence de la prise de Ménaka hier par des groupes pro-Bamako, la communauté internationale s'inquiète pour le processus de paix, alors que la rébellion a finalement annoncé son intention de paraffer l'accord d'Alger. Et j'exhorte les partis à cesser immédiatement les hostilités et à retourner sur leur position. Cette résurgence de tensions met en péril les efforts de tous pour restaurer une paix durable au Mali. C'est ce qu'a déclaré le chef de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, Mongi Amdi. Des centaines de corps ont été retrouvés la semaine dernière dans la ville de Damasak, près du lac Tchad, dans le nord de l'État nigérian de Borno. On fait le point avec Nathalie Barge.
Les cadavres ont été trouvés jeudi dans des habitations, des rues et dans le lit à sec d'une rivière avant d'être ensevelis pendant le week-end, rapporte l'AFP. La date du massacre n'a pas été déterminée. La ville a été reprise à Boko Haram par l'armée début mars. Une autre attaque qui a fait 21 morts vendredi dans l'état voisin de Yobe implique la permanence du risque. Le président de l'agence de gestion des urgences de l'État de Borno, Grima Terab, chiffre à plus de 100 000 le nombre de déplacés dans les camps ou chez des parents à Maïdougouri. Il a précisé qu'ils ne les laisseront pas rentrer tant que les villes et les villages de la région ne seront pas totalement sécurisés. Selon l'ONU, 15 000 personnes au moins ont été tuées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009 et plus de 1 500 000 ont été forcés de fuir leur lieu de vie.
République centrafricaine, le Conseil de sécurité a prolongé d'un an le mandat de la mission de l'ONU en RCA. Les effectifs de la MINUSCA sont augmentés d'après l'AFP. La résolution adoptée à l'unanimité confirme que le nombre des casques bleus autorisés pour la RCA est porté à 10 750 soldats et 2 080 policiers en prévision des élections prévues à l'été prochain. Le Conseil demande d'ailleurs à l'ONU d'accélérer le déploiement des moyens civils, policiers et militaires de la MINUSCA. Le mandat de l'ONU au Sahara occidental a également été prolongé d'un an. Dans la résolution adoptée aujourd'hui, le Conseil de sécurité appelle aussi à relancer les négociations entre le Maroc et le Front Polisario qui se dispute le Sahara occidental. Le Conseil n'a pas ajouté formellement au mandat la surveillance des droits de l'homme, ce qui aurait constitué un camouflé pour Rabat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Népal, les survivants du tremblement de terre ont un besoin désespéré d'eau et de produits de première nécessité. Pendant que les secouristes et groupes humanitaires tentent de rejoindre le pays et ceux qui sont sous les décombres. Le point avec Lionel Gaïma.
Selon les Nations Unies, le séisme a affecté quelque 8 millions de personnes, dont 1,4 million qui ont besoin d'aide alimentaire. Et les officiels établissent maintenant à plus de 4 300 le bilan des morts et à 8 000 celui des blessés. Ils reconnaissent qu'il ne s'agit là que des bilans provisoires et qu'on s'attend à ce qu'ils s'alourdissent avec le déblaiement des débris et un plus grand accès aux régions reculées du Népal. Beaucoup de gens ont de nouveau passé la nuit à la Belle Étoile ou dans des tentes, alors que les secousses secondaires ébranlaient encore la région après le tremblement de 7,8 de magnitude de samedi. Le correspondant de la VOA, Steve Herman, qui est à Katmandou, dit que se rendre à la capitale n'a pas été un problème, mais qu'il ne peut pas en dire autant pour les secteurs avoisinants qui restent un grand défi.
La garde nationale a été déployée à Baltimore, dans le Maryland, où les autorités tentent de rétablir l'ordre un jour après des émeutes. Cette ville de la côte est des États-Unis est entrée en ébullition après les funérailles de Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, mort après son interpellation par la police locale. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a décrété l'état d'urgence à Baltimore. Stephanie Rawlings Blake, la maire de la ville qui a qualifié les émeutes de l'un des jours les plus sombres dans l'histoire de la ville, a annoncé un couvre-feu nocturne d'une semaine. Les pompiers ont combattu plusieurs foyers d'incendie jusqu'à l'aube ce mardi. Les manifestants ont pillé et brûlé des entreprises, des véhicules et ont jeté des pierres, des bouteilles et d'autres objets sur la police anti-émeute. Le commissaire de police Anthony Betts a fait savoir que 15 policiers ont été blessés, dont 6 hospitalisés. Près de 200 personnes ont été arrêtées. La toute nouvelle ministre de la Justice, Loretta Lynch, qui a prêté serment lundi, a rencontré le président Barack Obama à la Maison-Blanche pour discuter de la réponse du gouvernement fédéral. Elle a condamné ce qu'elle a qualifié de violence insensée de la part de certains individus. La police de Baltimore a promis plus d'informations le vendredi 1er mai sur la mort de Freddie Gray.
Sachez aussi que les émeutes de Baltimore ont été condamnées par le président des États-Unis lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président Obama a reçu le ministre Abe ce mardi à la Maison-Blanche. Durant cette visite d'État, les deux leaders ont réaffirmé la solidarité de l'alliance unissant les États-Unis et le Japon. Dans leur conférence de presse, M. Obama a mis l'accent sur le rôle des États-Unis dans la zone Asie-Pacifique. Il a aussi déclaré que le Premier ministre Abe est en train de donner au Japon une place nouvelle sur la scène mondiale. Ils ont réaffirmé par ailleurs leur détermination à lutter contre le terrorisme. Au Yémen, les raids aériens de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les combats entre les groupes rivaux sur le terrain ont fait au moins 64 morts ce mardi. L'AFP rapporte des frappes contre deux bases militaires tenues par les rebelles à Sanaa, la capitale. Voilà pour ce bulletin d'information. Micro Morgane Guiriec et tout de suite, c'est Carrefour avec Camille Grosdidier.
Soyez au cœur de l'info.